Énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter,
première radio de France.
Merci d'écouter France Inter, il est 14h. Et les infos, c'est avec Timur Özturk.
En Nouvelle-Calédonie, l'État discute avec un couteau sous la gorge en disant « si vous ne discutez pas, je dégèle le corps électoral », dénonce Emmanuel Djibaou, le fils de Jean-Marie Djibaou, figure de l'indépendantisme kanak assassiné en 1989. C'est inévitable que cette violence institutionnelle se traduise par une violence sur le terrain, estime Emmanuel Djibaou. Aujourd'hui, un homme est mort tué par balle dans le nord du territoire calédonien. Il s'agit d'un caldoche, c'est-à-dire un descendant de colons européens. Il a été abattu dans une fusillade sur un barrage tenu par des indépendantistes kanaks. On déplore également 2 blessés. En tout, 6 personnes sont mortes depuis le début des violences lundi. 3 kanaks, 2 gendarmes et 1 caldoche. L'étau se resserre autour de la commune de Vovtchansk dans l'est de l'Ukraine. L'armée russe annonce s'être emparée d'un nouveau village dans ce secteur de la région de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, où Moscou a lancé une offensive terrestre et progresse. Près de 10 000 Ukrainiens sont évacués de la ligne de front. Le président Volodymyr Zelensky dit redouter que ces opérations ne constituent qu'une première vague et que le Kremlin tente à terme de conquérir Kharkiv. Loin des tranchées, la guerre est aussi économique. La justice russe a ordonné la saisie de plus de 700 millions d'euros d'actifs de la banque italienne UniCredit et de la banque allemande Deutsche Bank en Russie, requête d'une entreprise gazière russe dont un partenaire allemand a manqué à ses engagements de livraison de matériel après le début de la guerre en Ukraine. UniCredit et Deutsche Bank étaient les banques garantes de ce projet et n'ont pas rempli les obligations commerciales prévues par le contrat. 400 km de fortifications pour plus de 2 milliards d'euros. La Pologne va investir dans la sécurisation de sa frontière avec la Biélorussie et avec l'enclave russe de Kaliningrad, annonce le Premier ministre Donald Tusk. Un projet nommé Bouclier Oriental, soutien de Kiev, Varsovie craint d'être la prochaine cible de la Russie. L'état de santé du Premier ministre slovaque s'améliore, à en croire les médecins de Robert Fico, touché par 4 balles mercredi dernier. Il a été opéré pour la 2e fois hier. Le suspect de la tentative d'assassinat comparé aujourd'hui devant un tribunal. Les motivations de cet homme de 71 ans ne sont pas claires. Le 2e aéroport d'Allemagne, perturbé par des militants écologistes, des dizaines de vols annulés aujourd'hui à Munich. Les activistes ont découpé un grillage et occupé les pistes pour empêcher atterrissage et décollage. 8 d'entre eux ont été arrêtés par la police. Les 2 pistes sont à nouveau ouvertes, mais les perturbations devraient se poursuivre tout au long de la journée. Dans un mois, le 9 juin, dans l'isoloir, vous aurez le choix entre 37 listes pour les élections européennes. Les candidats avaient jusqu'à hier soir 18h pour déposer leur liste. Ils ont été 3 fois plus nombreux qu'aux dernières élections européennes en 2019 à le faire.
Dimanche 14h, Denis Chessoux.
Ce week-end, direction les Landes, portrait des temps, celui d'Arjusan qui est un résilient et l'étang noir qui est un résistant.
CO2, mon amour.
Tous les dimanches sur France Inter à partir de 14h.
Pour trouver le bonheur, suivez-moi en Grèce.
Éric Emmanuel Schmitt.
Pour vous, j'ai traversé le temps jusqu'au siècle de Périclès. Ensemble, nous marcherons aux abords du Parthénon flambant neuf. Deviserons avec Socrate en personne et partagerons peut-être même sur l'île de Lesbos le lit de la divine Sappho. Un voyage dans le passé? Non. Un voyage là où tout a commencé. Aux sources de la lumière et du bonheur.
La lumière du bonheur. Le roman événement d'Éric Emmanuel Schmitt. Un livre Albin Michel.
France Inter, partenaire de Requiem, la nouvelle création d'Angelin Préjocage. Chaillot Théâtre National de la Danse présente du 23 mai au 6 juin à la Villette, Requiem au pluriel, qui révèle la mosaïque des sentiments liés à la perte d'un être cher. Une procession des corps rythmée par des musiques très variées, de Mozart à des créations sonores contemporaines. D'un geste sensible et vibrant, il fait du Requiem une célébration de la vie où toute notre humanité prend corps dans un rituel de mémoire saisissant. Requiem d'Angelin Préjocage, un spectacle France Inter.
Vous êtes bien à l'écoute de France Inter, il est 14h passé de 4 minutes. Tout de suite, la librairie francophone avec Emmanuel Kérad.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF. Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On est de retour après deux émissions spéciales reportage et deux semaines très agitées après cette information révélée par la presse écrite sur ce projet contre ma volonté de supprimer la librairie francophone. Vous vous posez beaucoup de questions, mais je ne vais pas utiliser cette émission comme une tribune, par devoir et aussi par respect pour la RTBF, Radio-Canada, la RTS et les auditeurs de France Inter. Je m'exprimerai quand ce sera possible. Un grand merci toutefois pour vos très nombreux messages et nous continuons à communiquer ensemble sur les réseaux sociaux que vous connaissez bien. Voici le sommaire de cette nouvelle édition.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Nous sommes cette semaine au festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo en France pour une grande séquence dans la ville autour du conte avec Benteiki Tutua, originaire des Marquises, la Libanaise Praline Guépara et le Québécois Michel Jean, le Québec, qui est l'invité d'honneur de ce festival. Nous serons aussi avec Philippe Torreton pour son nouveau roman sur le monde du cinéma alors que le festival de Cannes a débuté cette semaine et avec l'écrivaine marocaine Zineb Mekouar qui vous fera découvrir le plus ancien et le plus grand rucher du monde. Nos libraires indépendants sont évidemment au programme de cette émission. Nathalie Clairin représente la Belgique, Thomas Auxerre est en France, Josiane Etourneau au Canada et Annick Vermeaux est en Suisse. Et on commence avec l'actualité francophone de la semaine. C'est donc le festival Étonnant Voyageur où nous sommes ici à Saint-Malo. Bonjour Jean-Michel Le Boulanger.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous depuis 2021. Vous êtes le président de ce festival breton qui est connu dans le monde entier. Ce qui est frappant ici, c'est de voir à quel point c'est un carrefour des nationalités. Tout le monde se croise, échange, le public semble fasciné de voir autant de diversité. Vous le vivez comment, vous ?
Bien, parce que la diversité est une richesse et c'est l'ADN en quelque sorte de ce festival Étonnant Voyageur. Le voyage, c'est la rencontre avec l'autre. Cette année, on a plus de 30 pays représentés. C'est autant d'imaginaires, de regards sur le monde, sur ce qui va moins bien, sur les résiliences, sur les coquelicots qui poussent ici et là. Et donc, on est très heureux. C'est vraiment la volonté de réunir des imaginaires du monde entier dans un même lieu pendant 3 jours.
Alors, plusieurs lieux, parce que là, on est sur le Salon du Livre. Il y a un Salon du Livre. Tous les stands, tous les éditeurs internationaux sont là, dans cette grande halle. Et quand on sort, on va sortir, d'ailleurs, Jean-Michel, on se retrouve, évidemment, en extérieur, avec différents lieux qui accueillent des rencontres, des expositions, un festival du cinéma. Tout est représenté.
Oui, le film, les illustrateurs, le livre, dans de nombreux lieux, à vrai dire. Quand je disais un lieu, c'est Saint-Malo. Et au sein de Saint-Malo, de nombreux lieux sont à la disposition du festival pour ces rencontres qu'on essaye toujours d'organiser sur la base de la relation des gens du nord, de l'est, de l'ouest, des gens d'un petit peu partout qui se rencontrent, voilà. Et ce qui importe, c'est justement que la relation ait lieu et que des émotions en naissent, que des projets en naissent.
On entend toutes les voix du monde à Étonnant Voyageur, Jean-Michel Le Boulanger. Être vecteur de paix, c'est un objectif cette année quand on lit votre programme. Vous pensez que la culture peut vraiment aider la cause ?
Évidemment que la culture peut aider la cause. La haine de l'autre naît de la méconnaissance de l'autre. On le voit depuis l'aube de l'humanité. Et nous, notre petite fonction, c'est une petite brique, c'est un rien du tout à l'égard des grands chaos du monde. Ben, c'est quand même d'organiser justement de la rencontre, de la relation, de la conversation, du dialogue. On manque de conversation aujourd'hui. Les gens se replient sur des certitudes et il y a moins de débats. Et nous, on veut vraiment, envers et contre tout, continuer à plébisciter ce qui est le fondement de la démocratie, c'est-à-dire l'autre.
Bon, on va aller vers la mer, Jean-Michel. Il y a un grand rayon de soleil là qui illumine complètement cette place et ce palais du grand large avec des nuages, un petit vent très léger, la mer qui est juste à côté là. Cette année, le Québec est à l'honneur. C'était déjà le cas cette année au Festival du Livre de Paris. À Angoulême, le Canada était pays invité d'honneur. Oui. Comment expliquez-vous cet intérêt intense pour le Québec et les Canadiens, même si nous, on s'en réjouit, hein, je vous avoue, mais...
Oui, moi je ne peux parler que pour nous. En fait, c'est une longue histoire entre Saint-Malo et le Québec. C'est l'histoire de Jacques Cartier, c'est 4 siècles d'aventure.
Et, oui.
Et donc, il y a une légitimité pour nous à accueillir le Québec. Parce que le Québec et Saint-Malo, c'est une même histoire, en fait.
Et oui, c'est vrai.
Voilà.
Grande histoire. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup pour ce festival étonnant voyageur. Jean-Michel Le Boulanger, on va se diriger sur le sable. On va vous laisser à vos activités car vous avez énormément de boulot. Le festival étonnant voyageur se tient tout le week-end jusqu'à lundi ici à Saint-Malo. Merci Jean-Michel.
Merci beaucoup à vous.
Nous allons entendre ces voix du monde. Nous allons rejoindre justement un écrivain québécois, grand fidèle de la librairie francophone, mais aussi une conteuse libanaise et un artiste des îles Marquises. Et nous arrivons sur le front de mer, ici à Saint-Malo, sur cette musique de Rataro, musique des îles Marquises. Bonjour Ben Teiki Tutua.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ici à Saint-Malo. Vous êtes maître conteur marquisien. Vous avez publié un livre avec un écrivain et libraire breton nommé Loïc Josse pour raconter votre trajectoire. Vous avez été le premier marquisien à être nommé directeur d'école en 1984 et vous militez pour la promotion de la culture des îles Marquises. Vous dites d'ailleurs, le jour où le marquisien perdra sa langue, il perdra sa culture.
Absolument. Pour moi, c'est un bonheur d'avoir réussi à réveiller cette culture qui était sur le bord d'une disparition rapide. C'est-à-dire que pendant les premiers visiteurs en 1595, c'est-à-dire les Espagnols, notre culture a commencé à disparaître avec tout notre peuple qui ont subi épidémie sur épidémie. Ce n'est pas le cannibalisme qui a fait que le peuple marquisien a diminué, mais malheureusement, ce sont les contacts avec les visiteurs venant d'ailleurs, je ne dis pas les blancs, il y en a aussi d'autres, les maladies qui ont terrassé mon peuple, et ce qui fait qu'en 1920, au début, Cook avait estimé à peu près autour de 100 000, et en 1930, il ne reste plus que 2 000.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Et même, il y avait un administrateur de l'époque qui avait écrit au ministre des colonies d'amener 500 Martiniquais lors du volcan en 1902 pour repeupler les Marquises. Normalement, on entendrait, c'est bon pour le moral aux Marquises. Aujourd'hui.
C'est ça.
Ben oui, on aura deux gentils.
La compagnie créole aurait pu être aux Marquises, c'est ça ?
Aurait pu être aux Marquises, pourquoi pas, voilà.
Bon, on va aller au bord de la mer. Les pieds dans le sable, on longe les remparts ici à Saint-Malo. On va rejoindre Michel Jean, qui est un grand écrivain québécois Innu, et Praline Guépara, aussi une conteuse incroyable, qui va nous raconter un conte dans un instant. Le conte, justement, Ben, le récit oral sont très importants dans la transmission de la culture marquisienne. Et vous, vous êtes considéré comme un touhouka.
Oui.
Qu'est-ce que c'est le touhouka ?
Alors, le touhouka, si vous voulez, c'est la civilisation marquisienne, c'est la colonne vertébrale de la tribu. C'est-à-dire, ce sont les techniciens, les maîtres, et c'est eux qui transmettent, qui travaillent dans tous les domaines, aussi bien dans l'art des chants, des danses, construction des pirogues, et construction des maisons, tout. Et ce sont des touhoukas. Ceux qui possèdent le savoir et le savoir-faire.
Ouais, c'est-à-dire un maître conteur, en ce qui vous concerne,
voilà,
qui conserve la mémoire du peuple.
Voilà.
Alors, dans votre livre, vous racontez que cette passion pour les contes vient de votre enfance, avec une grand-tante qui vous racontait les légendes des îles. Vous dites que c'était notre télé.
Oui, absolument. C'était le centre d'intérêt, c'était la radio, la télévision. On était des enfants tout autour d'elle, cette image magnifique, elle, au milieu. Elle pouvait raconter du matin jusqu'au soir, ou du soir jusqu'au matin, en fermant les yeux, et nous, on dormait, on se réveillait, elle continuait à raconter.
Il y avait une règle quand même, hein, je crois, Ben.
Ah oui, il ne faut pas péter.
Comment ça, il ne faut pas péter?
Si tu pètes, alors pour elle, on se moque d'elle. Ce manque de respect.
Ah, c'est un manque de respect si vous... Ouais, si
ça,
vous
ça, s'arrête, hein, ça arrête, il faudra un mois pour redémarrer.
Il faut se retenir, quoi.
Voilà, il faut se retenir. Sinon, tu sors discrètement et s'éloigner. Voilà.
Bon, vous allez nous raconter l'une de ces histoires. Voilà. D'abord, je vais vous présenter quand même Praline Guépara. Bonjour Praline.
Bonjour.
Alors vous, vous avez publié une soixantaine de livres, dont beaucoup d'ouvrages jeunesse. Vous êtes née au Liban. Vous avez d'ailleurs publié Les Contes du Liban aux éditions du Jasmin. Mais vous vous intéressez aux contes des cinq continents. Et vous voyagez, vous, pour collecter des histoires, dites-vous. Quand vous entendez ce conteur, ce maître conteur marquisien, qu'est-ce que vous ressentez, Praline ?
Je me sens toute petite parce que je suis maître de rien. Et je me dis que j'ai beaucoup à apprendre de ce monsieur.
Et vous aimez aussi raconter des histoires. Vous dites, raconter des contes, ça peut sauver des vies.
Sauver des vies, peut-être pas, parce que je n'ai pas cette prétention. Mais je pense que le temps d'une histoire, on peut réparer la vie où elle nous fait mal. C'est tout, le temps d'une histoire.
Bon, vous allez nous raconter une histoire aussi. Les pieds dans l'eau, quasiment, dans un instant. Ben, l'histoire de votre grand-tante, l'une des histoires.
Alors,
rapide.
C'est l'histoire d'un grand, très grand cochon. On raconte qu'il mesurait 5 mètres de haut et 7 mètres de long. Énorme, géant, qui a pu sauver la tribu de Huopo de la famine. Parce qu'ils avaient un grand maître chaman qui pouvait transformer les os, les squelettes des cochons en chair en récitant des formules magiques. Par exemple, il disait ceci. Tanawa kakiwe, oui. Tanawa kakiwe, oui. Et tanawa kakiwe, oui, oui, oui. Et là, il invoque les dieux. À ce moment-là, il y a la magie qui arrive et la chair se met à pousser autour des os, des squelettes. Donc, il n'avait pas à élever des cochons. Mais un jour, il perdit ce pouvoir. C'est un autre chaman. C'est le propriétaire du cochon géant qui arrive et lui dit, écoute, je suis plus fort que toi. Ça, c'est un vrai cochon. Ton truc là, ça vient des esprits. C'est du vent. Et là, et il demande à son cochon, est-ce que tu acceptes le sacrifice de mourir et de nourrir ce peuple? Et le cochon, il fait, d'où la danse du cochon? Ah, hé, hey, oh, hé, hey, ah, hé. Hey. Alors cette danse, c'est la danse la plus authentique des Marquisiens qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque festival, il y en a au moins 1000 danseurs qui poussent ce cri-là. Ça vous fait la chair de poule.
Ah bah oui, et tout vient de là.
Tout vient
de cette légende.
On appelle ça la souffle de vie.
La souffle de vie, avec le cochon.
Avec le cochon.
Allez, venez, on va au bord de la mer avec Praline.
Voilà l'histoire du cochon.
Merci pour cette histoire. Bonjour Michel Jean.
Hey, salut Emmanuel.
Le Québec invité d'honneur de ce festival Étonnant Voyageur, c'est une grande nouvelle. On est ravis de vous avoir ici avec nous une nouvelle fois. Vous êtes cet écrivain québécois Inou dont nous avons beaucoup parlé dans cette émission depuis la sortie de votre livre Koukoum, qui raconte le destin d'une femme éprise de liberté qui va partager la vie des Inuits, brisant les barrières imposées aux femmes autochtones. Cette histoire est celle de votre famille, hein, en partie. Vous aussi, vous êtes passé de cette mémoire orale, comme on en parlait avec Ben, à l'écriture.
Oui, puis j'ai aussi grandi quand même avec des histoires qui m'ont été racontées par ma mère. Et tous les personnages qu'on retrouve dans Koukoum, notamment Christine, Marie, Almanda, Thomas et les autres, pour moi, j'ai grandi avec ces personnages-là dont on me racontait plein d'histoires et qui ont nourri mon imaginaire. C'est comme une mythologie dans laquelle j'ai grandi. Et quand j'ai écrit le roman, j'étais vraiment entouré de personnages qui étaient non seulement ma famille pour vrai, mais ma famille vivante, pratiquement.
Praline, alors vous connaissez les contes du monde entier. Vous êtes quasiment une encyclopédie. Si. Vous avez publié 60 livres. Ce qui vous plaît aussi, c'est l'universalité du conte, Praline. C'est le partage d'une mémoire collective, un voyage intérieur, mais peut-être que grâce à l'imaginaire, on peut l'adapter à sa propre culture.
Il ne s'agit pas d'adapter. Ma chance, c'est que je peux lire dans d'autres langues. Et quand je tombe sur un conte qui me touche, qui me bouleverse, qui m'étonne, et je me dis, au lieu qu'il prenne la poussière sur mes étagères, je préfère le traduire, lui donner vie. Oui. Mais personnellement, quand je raconte, je ne peux pas adopter un conte d'une culture inoue ou d'une culture marquisienne si je n'ai pas pris la peine d'étudier cette culture et ses valeurs. Sinon, soit je fais du folklore, soit je fais de l'appropriation culturelle. Ouais. Il faut étudier la culture parce qu'il n'y a rien de plus ancré dans une vision du monde que les contes qui sont transmis dans une culture.
Michel Jean, votre grand-mère, elle vous racontait des histoires.
Oui, mais...
Beaucoup d'histoires.
Oui, exactement. Et j'ai grandi avec ces histoires-là. Mais aujourd'hui, pour nous, la littérature prend le relais du conte. C'est-à-dire que les contes étaient racontés autour du feu et on nourrit des générations d'imaginaires. Et rendu à nous, on ne vit plus le mode de vie où on est tous le soir autour du feu. Comment on peut raconter nos histoires? Et depuis, je dirais, 10 ou 15 ans, on est de plus en plus nombreux, chez les Innus notamment, à écrire des romans et à prendre les histoires qu'on nous a racontées et nos histoires et à les porter dans des romans. Parce que c'est la grande Joséphine Bacon qui a dit « Si nous ne racontons pas nos histoires, qui va le faire à notre place? » Donc, la littérature aujourd'hui est une manière pour les Innus, les Autochtones, de continuer de raconter ces histoires-là, mais sous une autre forme qui correspond à la société dans laquelle on vit maintenant.
Les gardiens de la mémoire, c'est
exactement.
Un peu ça.
On est des passeurs, en fait. Oui. Il y a un professeur qui m'a dit ça aujourd'hui. Puis je dis, c'est vrai, en fait, moi, ce que j'écris en réalité, là, c'est pas moi qui l'invente ou qui le crée. Je prends ce que les gens me disent et ce que je vois et ce qui appartient à nos peuples, puis je le transmets dans un livre pour que les gens puissent le lire. En fait, je ne fais que passer ces histoires-là aujourd'hui sous la forme maintenant de romans, mais qui permettent à ces histoires-là de trouver de nouveaux publics et de continuer de vivre, en fait, à travers les personnes qui vont lire ces livres-là.
Vous pensez, Michel Jean, Praline, Ben, que avec ces traces laissées par toutes ces histoires, on peut mieux appréhender la grande histoire, on peut mieux comprendre l'histoire de ces peuples?
Absolument. Puis non seulement on peut mieux, mais on a le devoir de le faire. Je veux dire, tout ce que nous, on apprend, tout ce que l'on sait, hein, mais si on ne le raconte pas, ça va mourir avec nous.
Ben, vous êtes d'accord?
Ah, tout à fait d'accord, mais c'est magnifique. Parce que chez nous, aujourd'hui, heureusement, on utilise le progrès, l'Internet et tout, on écrit. Alors, nous sommes un peuple de culture orale. Oui. Et là, avec le progrès, nous avons
transmis... Vous êtes passé à l'écrit, oui.
À l'écrit, oui. Et on enseigne le conte à l'école. Oui. Aux enfants, ce n'est plus autour de la grand-mère, dommage, et c'est à l'école. Oui. Donc, voilà.
En tout cas, ça perdure quand même.
Ça perdure.
Même si les grand-mères ne sont plus là, malheureusement.
Les moyens ont changé.
Les moyens ont changé. Praline, un conte pour conclure. Vous avez préparé quelque chose pour la librairie francophone, ici, à Saint-Malo. Sur le sable, on est à 2 mètres de l'eau.
Et c'est une chance d'être si bien accompagnée, d'être dans ce lieu magnifique. C'est une histoire de l'époque du calife Haroun al-Rachid, qu'on disait juste et équitable. Et un jour, ses soldats attrapent un chef de brigands et le calife le condamne à mort. Quelques heures plus tard, il voit arriver une femme debout, tête haute, qui sait ce qu'elle veut. Et quand il lui demande ce qui l'amène, elle lui dit « Tu viens de condamner à mort mon homme. Et avec lui, j'ai 8 enfants. Tu ne peux pas faire 8 orphelins. » Il lui répond « Tu es en train de me dire que tu aimes tes enfants. Je vais te poser une question. Et tu as 3 jours et 3 nuits pour trouver une réponse qui me prouve l'amour que tu leur portes. » Et il lui demande « Lequel de tes enfants préfères-tu ?» La pire question qu'on puisse poser à une maman. La femme s'en va, toujours tête haute. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle retourne la question dans sa tête et à l'aube du 4e jour, elle est là, tellement tête haute qu'il sait qu'elle sait. Et avant même qu'il ne lui dise bonjour, elle lui dit « Je sais. Je préfère le plus petit jusqu'à ce qu'il devienne grand. Je préfère celui qui est en voyage jusqu'à ce qu'il soit présent. Je préfère celui qui est malade jusqu'à ce qu'il soit vaillant. » Et on dit qu'il a été juste et équitable et qu'elle a vécu très vieille avec ses enfants et beaucoup, beaucoup de petits-enfants.
C'est une très belle histoire. Ouais. Félicitations, vous êtes applaudi par Ben. Merci beaucoup, Praline Guépara.
Merci à vous, messieurs, tous les trois.
Merci, Michel Jean.
Et merci, Manuel, c'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Pour moi aussi, Ben Teiki Tutuwa, j'étais ravi de vous trouver ici. Vous avez froid, hein, c'est l'hiver pour vous, alors qu'il fait 20 degrés. Arrêtez de trembler.
Oui, bon. Alors, je dis merci dans ma langue, Ko Tau Nui. Merci. en Marquisien.
Voilà. Kotanui.
Kotanui.
Bon, merci beaucoup. J'ai été ravi de faire cette rencontre ici à Saint-Malo dans des circonstances un peu compliquées en ce moment. Merci beaucoup. Je suis très ému. Merci Praline. Merci Michel Jean. Merci Ben. On va poursuivre cette émission, bien sûr, avec dans un instant en studio avec Philippe Torreton, entre autres. Avant cela, on écoute l'artiste tunisien Balti. Écoutez, c'est une musique magnifique. Et vous êtes, bien sûr, à l'écoute de la librairie francophone.
انا اللي صابر وصعب يطال وطال وطال سامحني يامي كان ذاق الحال وانا اللي صابر وصعب يطال وطال وطال وغدوة يامي تبدل الحال سميتهم الاحباب وضحكوا عليا وفي الشدة انا هربوا بيا كرهت قلبي وكرهت النية وما بقت منهم كان لسامي وينك يا سوري وينك يا يامي وينك يا صحيبي وينك لا فامي وانا لليوم غريب على الدار ويا شباب الوقت بياتار اجرت وخلفت ورايا كان الغبار عملت حساب للي جا واللي كان ورزنك يدي على دكان البيبان عبر سبيل مضيع العنوان وانا اللي صابر وصعب يطال وطال وطال سامحني يامي كان ضاق الحال وانا اللي صابر وصعب يطال وطال وطال وغدوة يامي تبدل الحال ضحكني كاس انا وبكاني كاس والغلطة فينا اللي حسبناهم ناس ولا باس حتى كان ضيعت الادراس والملح والسكر نفس اللون واللي خان ما ظنيتو شيخون تقول له موسى يطلع لك فرعون
Artiste tunisien Balti avec Saber, la chronique des libraires, première partie, avec un coup de cœur au Canada, Josiane Letourneau, bonjour.
Bonjour Emmanuel, je vais vous parler de Temps d'hiver.
Oui, j'allais dire vous êtes libraire dans la librairie Pauline à Montréal, mais allez-y.
Merci de me le rappeler en fait, oui, je vais savoir où partir après l'émission. Alors, je voulais parler de Temps d'hiver en quelques mots, qui est l'histoire d'un homme qui se réapproprie son corps à travers les souvenirs de tous ces hivers que ce corps, justement, ses yeux, ses oreilles, ses mains ont traversé dans la froidure, dans le feu, la joie et la passion profonde pour cette période de l'année unique, poétique, exigeante, faut le dire, mais si distincte. Et c'est le sixième titre de la collection mobile des éditions de Sémaphore. C'est une collection qui vaut le détour, car ce sont des livres visuellement d'une superbe facture. Le premier livre de François Marcotte, Temps d'hiver. Chez Sémaphore.
C'est bien, vous avez tout dit. Merci beaucoup, Josiane. Elle est libraire à la Mazrine, à la Hulpe. Elle est belge, elle représente la Belgique. Elle a un coup de gueule. Bonjour, Nathalie Clairin.
Un chaleureux bonjour, Emmanuel.
Chaleureux.
Oui, écoutez, voilà. Mais seulement ici, vous savez, il y a des couvertures de bandes dessinées eh bien, qui sont carrément manquées. Et puis moi, mais ça m'énerve parce qu'elles ne donnent pas une bonne idée du contenu. Et c'est le cas pour la BD Le Canari. C'est une coédition de Traverse et de Seuil. L'auteur est Constance Lacroix. Lagrange. Et en fait, ça, elle raconte l'histoire d'une famille juive polonaise des années 30-40 à Paris. Et le contenu, il est très, très valable. Mais voilà, la couverture, désolée de le dire, un peu niaise, elle ne donne pas vraiment envie.
Bon, il y a plein de bandes dessinées qui ont raté effectivement leur couverture et même des Astérix. Hein. Souvent, on a critiqué les couvertures d'Astérix. Donc, vous voyez, finalement, ça arrive. Merci en tout cas, Nathalie, pour ce coup de gueule. On reçoit Philippe Torreton, allons-y.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici, Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Voilà, on a quitté la petite brise bretonne pour la chaleur du studio sur cette musique de la piste aux étoiles. Bonjour Philippe Torreton.
Bonjour Emmanuel.
Cette musique que vous citez dans votre livre, on va comprendre tout à l'heure. Merci d'être avec nous pour votre nouveau roman, un récit qui s'inspire en partie de votre vie de comédien, en petite partie. C'est un homme qui a connu le succès, qui a été propulsé par un rôle. Il a obtenu un César, puis un Molière. Tout le monde saluait son talent. Et puis un jour, on n'a plus voulu de lui. Ça s'est fait petit à petit, comme ça, en réduisant ses rôles, en l'écartant ?
Oui, un désamour. Il y a eu deux désamours, en fait. La profession s'est détournée de lui et sa femme l'a quitté pour aller avec un producteur à succès. Donc le cinéma l'a outragé deux fois.
Et il vient de la région, comme on dit, d'une région, la Normandie natale, en ce qui le concerne. Il ne connaît pas vraiment ce monde du cinéma parisien. Il n'est pas du sérail, comme il dit.
Oui, je me suis servi de certains éléments qui peuvent vous faire penser à un autre acteur, à peu près du même âge.
Oui, qui vient de Normandie, mais, tout ça. Voilà.
Mais je voulais ancrer ce roman dans du réel. À la fois ce métier, l'origine du personnage, je voulais que tout ça sonne comme si ça rappelait des choses aux gens. Et puis après, s'en écarter de ce réel, parce que le personnage n'est évidemment pas moi, du tout.
En tout cas, il a eu un César comme vous.
Oui.
Et après la cérémonie des Césars, il dit « Je dépareillais, j'eus l'intime conviction ce soir-là que je ne serais jamais vraiment un des leurs. » Il a senti tout de suite ça. Il ne serait pas accepté complètement.
Oui. Ça se sent.
Ouais. Comment ça se sent ? Pourquoi ?
Déjà, dans ce métier, il y a une grosse différence entre les jeunes acteurs qui ont vécu à Paris ou qui sont carrément parisiens et ceux qui viennent de province. Ceux qui viennent de province, par exemple, dans notre promotion du conservatoire, on n'était que 2 sur 30. Et on a tout à apprendre très vite. Alors, il y en a qui sont très rapides et il y en a qui sont lents. Moi, j'étais plutôt lent. Et
donc, ça a pris du temps pour vous.
J'ai mis très longtemps à savoir ce que c'était qu'un casting, à savoir à quoi ça servait un agent. Je ne savais pas tout ça. En plus, il y a tous ces noms propres qui vous échappent. Moi, Antoine Vitez ne me disait rien.
Ouais, ouais.
Patrice Chéreau, même en plissant les yeux, je ne voyais pas qui c'était, etc. Ouais. Donc, alors au début, on dit, bah oui, bien sûr, on répond vite fait, comme ça, qu'on a lu, qu'on a vu, qu'on sait qui c'est.
Ouais, mais y a pas que...
Et le soir, on rentre avec son ignorance.
Pas que l'histoire de la culture. Il y a une attitude. Vous dites, par exemple, le personnage dit, moi, je n'aimais pas la nouvelle vague. Et dans ce métier, il faut aimer la nouvelle vague. Si vous n'aimez pas ce courant, vous êtes exclu. Et il dit, on le sent que vous n'aimez pas la nouvelle vague. Même si vous faites illusion, ça transpire.
Ouais, je crois pouvoir le dire, oui. En tout cas, l'écrire, je l'ai écrit. Alors, c'est mon personnage.
Ouais, mais c'est un peu vous, mais... Philippe, je sais.
Oui, je trouve qu'il exagère un peu.
Je sais pas.
Moi, j'aime plus de films que lui, mais lui est assez radical. Mais ça sert à ça, un roman. Voilà. Mais disons que la base est commune. Ouais. Ouais. J'ai un problème. Non, j'ai aucun problème avec aucun genre de cinéma. Moi, je n'aime pas les descendants, les gardiens du temple. Voilà.
Mais vous avez senti le fait de ne pas être du sérail ?
Oui. C'est presque obligatoire. Vous n'avez pas les références. Vous ne pouvez pas faire le malin dans des conversations. Vous ne pouvez pas dire certaines choses. Donc forcément, vous êtes sur un banc de touche perpétuel et à regarder les autres. Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis de travailler tout seul, de découvrir plein de choses tout seul dans mon coin. Donc c'est pas... Et puis de rentrer à la Comédie Française, puis d'être heureux. Donc tout va bien.
Alors, il est entre la grosse notoriété et la petite réputation. Il est entre les deux, cet homme-là. Ni très célèbre, ni complètement anonyme. C'est la situation la plus inconfortable, ça, Philippe Torreton. On ne profite pas des avantages de la célébrité. Et en même temps, à tout moment, on peut vous voler votre intimité. Il raconte cette anecdote avec un vendeur de chaussures qui lui demande une signature.
Oui, ça m'est arrivé.
Racontez-la.
J'étais dans un magasin.
Oui.
Bon, il y a très longtemps, j'étais assez jeune comédien, j'avais déjà fait quelques films. Et à l'époque, je m'achetais des chaussures. Et puis le jeune homme me dit, est-ce que je peux avoir un petit autographe avec un joli sourire? Et j'affiche le sourire du comédien charmé d'avoir été reconnu. Je dis oui, à quel nom? Il me dit, le vôtre, c'est pour le ticket de caisse. Et je dis, oh merde.
Pour le ticket de carte bleue, oui.
Et là, je me suis dit, oh non, plus jamais.
Bon, vous êtes rattrapé depuis. Albert Stéphan, c'est son nom d'acteur à votre personnage. Il a eu une fille avec une femme, donc il a quitté pour un riche producteur. Mmh. Il est en bout de course. Il a tenté un dernier truc. On va y venir tout à l'heure après nos libraires. Mais maintenant, il veut disparaître.
Oui.
Disparaître, c'est la dernière liberté.
Il le vit comme ça, oui. Choisir sa fin est une liberté. On est en plein dans ce débat-là en ce moment, sur la fin de vie. Mais lui, voilà, il a envie d'en finir avec la vie. Alors, c'est difficile de commencer à parler de ça sans parler de ce qui suit après, du roman. Mais les premières pages sont les confidences de quelqu'un qui va se tuer,
ouais.
Qui va quitter ce monde. Mais qu'il le fait sans, comme Spaggiari, sans haine ni violence. Quoi. Il veut pas souffrir.
Ouais.
Bon, il a trouvé la combine. Comment faire? Et ce qu'on lit, ce sont ses derniers mots.
Il a sacrifié sa vie, en fait, pour le cinéma. Il a avalé des couleuvres.
Oui.
Il a même transigé avec l'estime de soi. Le cinéma, c'était une obsession pour lui. Coûte que coûte, il voulait y arriver, quitte à sacrifier sa vie.
Oui, mais il n'était pas équipé pour ça. C'est-à-dire que...
Il n'était pas préparé.
Sacrifier. Préparé dans le sens, si on veut vraiment réussir, il faut être prêt à plein de choses. Et lui... avait cet orgueil de penser que le talent suffisait. Mais non, donc faut que...
Et le
faut assommer les gens de soi-même. Faut se dire, pourquoi tu prends machin? Regarde-moi, je te le fais, le rôle, etc. Faut collectionner les 06, faut être aux avant-premières, faut faire chier les comédiens, les metteurs en scène, faut coucher devant leur porte, etc., 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 etc. Et faut avoir le talent de ça. Je méprise pas ceux qui le font, mais lui n'a pas le talent de ça, donc il le fait pas, mais en même temps, il désirait ça, il désirait la popularité, et c'est ça le problème, c'est... Ou est-ce qu'on veut faire ce métier et en acceptant le risque d'être connu, parce que c'est une maladie professionnelle. Si on fait bien ce métier, on peut être amené à être connu. Ou est-ce qu'on veut être connu, tout simplement.
Bon, on va laisser la parole à nos libraires. Ouais. Philippe Torreton, avec La Suisse, dans la librairie Zalac Toré. Bonjour Annick Vermeau.
Bonjour Emmanuel.
Alors, qu'avez-vous pensé du livre de Philippe ?
Alors, il y a de l'emphase dans ce roman. Aussi, quelques petites longueurs, mais elles sont habilement rattrapées par l'intrigue qui est truculente. Et puis aussi, les états d'âme de votre comédien m'ont vraiment fait beaucoup rire. Je me permets aussi de vous adresser un vibrant merci pour avoir mis un aussi joli coup de projecteur sur Philippe Druillet.
Ah oui.
Peut-être que quelques curieux iront vous découvrir grâce à vous quelques-unes de ses créations.
C'est vrai, merci. On salue Philippe Druillet d'ailleurs. Bonjour Thomas Auxerre.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez aimé le livre de Philippe Torreton?
Ah oui, moi j'ai lu votre livre avec plaisir. Malgré un démarrage un petit peu lent, on se prend au jeu au moment du point de bascule qu'on va voir. Moi j'ai apprécié que ce double du narrateur ait du succès et peut-être même qu'il tienne sa revanche sur ce monde du cinoche qui m'a fait moi froid dans le dos. J'ai aussi aimé l'idée de la créature qui échappe au contrôle de son créateur. Et puis j'ai adoré l'idée de la bonne blague de départ qui vire quand même au quiproquo un peu dangereux.
Vous êtes libraire, je ne l'ai pas dit, à Puteau, hein?
Oui, à Puteau.
Libraire Lamandier, ça va Puteau?
Ça va plutôt bien.
Très bien, merci. Ça aurait été dommage de se priver de ça quand même. On va jusqu'au bout, toujours aller au bout. Josiane Letourneau à Montréal, que pensez-vous du roman de Philippe?
Alors moi aussi, je vais aller jusqu'au bout. Alors il y a deux choses particulièrement réussies à mon avis dans ce livre-là, deux choses qui ont définitivement poussé ma lecture vers l'avant. Ce ton qui, malgré les événements difficiles et malheureux, se tisse d'humour, d'ironie et d'une spectaculaire capacité à n'épargner personne et le narrateur lui-même d'ailleurs. Et les coulisses que la vie de votre narrateur nous ouvre, qui nous fait tanguer sans arrêt dans ce territoire incertain mais fascinant qui apparaît lorsque la fiction nous semble probable, bien sûr.
Juste avant la Belgique, Philippe Torreton, parlons du point de bascule qu'évoquait Thomas Auxerre à l'instant. Un jour, Albert croise l'œuvre de Romain Gary. Sa fille, qui fait des études de littérature, lui explique qui est Romain Gary. Et là, alors qu'il est au creux de la vague, il a une idée. On peut en parler ou pas?
C'est pas un roman basé sur un suspense.
Un peu quand même.
Comment ça va se passer, qui est rigolo d'apprendre.
Oui.
Oui, Romain Gary, donc il ignore tout parce qu'il lit pas grand-chose, il est assez feignant, mon personnage, et contraint et forcé, il va voir une pièce, La vie devant soi, une adaptation de La vie devant soi. Il s'enferme pendant 7 jours avec les bouquins que lui donne sa fille. Et au bout de 7 jours, il a envie de faire comme lui, d'être le Romain Gary du cinéma. Sauf que bah, pour un livre, il suffit de changer le nom de l'auteur et puis d'être assez habile dans la communication. Mais pour un comédien, il faut changer de tête. Et donc, et il va s'y employer avec son ami Mal, Maxence André Longchamp.
Avec un masque très bien fait, très réaliste. Absolument. Un changement de look total, une vie imaginée aussi, c'est un paysan. Et ce paysan va réussir un dans berger. Le monde du cinéma. Ouais. Un berger.
Un berger, ouais. J'aimais bien ce côté Spoons.
Voilà. Qui fait de des caprices avec ses brebis. Moi, j'ai pas le temps de faire des tournages et des brebis. Et c'est comme ça que le succès arrive. Le cinéma a un monde de l'esbroufe dans ce livre, j'allais dire dans ce film, Philippe Torreto.
Mais on aime bien, tout d'un coup, jeter son dévolu sur un petit bloc d'authenticité. Voilà, un petit barbu qui va nous étonner. Ils ont trouvé un subterfuge pour éviter le HMC, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire l'habillage, coiffure et maquillage, parce que
avec une maladie de peau.
Un maquilleur. Ouais,
bon, on va arrêter là parce qu'on va pas tout raconter. Voilà. La Belgique, Nathalie Clairin, qu'en pensez-vous?
Ben moi, je me suis dit que le héros du livre, il avait bien eu raison de ne pas se suicider. Au moins pendant 189 pages.
Il n'y aurait pas eu de roman sinon. Oui.
Voilà, comme annoncé à la première page, mais non, pendant tout ce temps-là, parce que évidemment, il en a découlé des aventures qui m'ont fait bien rire. Alors, on est plongé dans le monde implacable du cinéma français, de l'hypocrisie sociale, avec un peu d'érudition, mais à condition de ne pas vouloir à tout prix démêler le vrai du faux. Moi, j'ai trouvé ça très drôle et drôlement intelligent. En un mot, truculent.
Voilà, vous avez séduit nos libraires, Philippe Torreton.
C'est génial.
Il vous a écœuré le monde du cinéma à un moment ?
Jamais, non. Des gens, oui. Des comportements, oui. Des phrases que j'ai pu entendre à mon endroit, oui. Mais pas le cinéma dans l'ensemble, non. Oh, non, non, non. Non, 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 non. Il faut savoir séparer les personnes de l'art. Mais l'art cinématographique me passionne toujours. Et me manque, d'ailleurs. Mais
Pourquoi vous ne tournez plus de films ?
Je crois que c'est la conjonction de plein de choses, entre le fait d'avoir été dans des films qui ont marqué, mais qui n'ont pas été des succès incroyables au box-office, donc ça ne m'a pas donné une assise comme ça, un coussin de millions de spectateurs, et puis mon indépendance d'esprit, ma façon... Je crois qu'on m'a beaucoup reproché, enfin je crois, je pense que je suis sûr, ce que j'ai pu écrire il y a 12 ans sur Depardieu, etc., donc... Il y a eu un moment clivant, comme ça, qui s'est fait.
On ne vous a plus appelé à un moment
et
comme le personnage.
Voilà, on m'a plus
appelé.
Ça s'est délité. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est les gens avec qui j'avais tourné, avec qui ça s'était super bien passé, et qui ne m'ont pas rappelé. Que les autres me fassent la gueule, etc., m'en veulent, ils ont le droit. Mais des proches avec qui j'ai tourné, avec qui on a été au César ensemble, avec qui on a fait des choses ensemble, ne me rappellent plus. Là, ça fait mal, quand même.
Eh oui. Le dos se tourne facilement, vous savez.
Oui,
dans ces métiers.
C'est ce qui se tourne le mieux, je crois.
C'est ce qui se tourne le mieux. Bon, vous êtes un grand comédien, en tout cas reconnu par le public, vous le savez, Philippe Torreton. Merci beaucoup, vous restez avec nous.
Avec grand plaisir.
Un cœur outragé, paru aux éditions Calman Lévy. À suivre, l'écrivaine marocaine Zineb Mekouar, qui vous raconte notamment l'histoire du plus grand rucher du monde. Avant cela, on écoute la chanteuse Eloi dans la librairie francophone.
T'as pas compris, t'as pas aimé, t'es romantique, ça suffit pas, faut prendre des risques. Je te donne
chanteuse Éloi avec Comme un animal.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et bonjour Zineb Mekwar.
Bonjour Emmanuel, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
Merci beaucoup Zineb. Vous publiez votre deuxième roman, Souviens-toi des abeilles, aux éditions Gallimard, dans la prestigieuse collection Blanche. Vous nous emmenez au Maroc, autour du rucher d'Inzerki, à 80 km d'Agadir. C'est le plus grand rucher du monde. 4000 emplacements pour les ruches, peut-être le plus ancien aussi.
Oui, alors justement, j'ai fait une enquête, j'ai parlé à des experts et on dit que c'est le plus ancien et le plus grand du monde.
Oui, oui.
Le Maroc, d'ailleurs, veut poser sa candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Oui, ça pourrait, oui. Alors aujourd'hui, il existe encore, bien sûr, mais il y a très peu de ruches dans votre roman et dans la réalité aussi. C'est un rucher qui a perdu sa splendeur, qui est déserté par les abeilles. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, j'en ai entendu parler au détour d'une conversation où on m'a dit, mais tiens, au Maroc, à côté d'Agadir, à une heure d'Agadir, il y a ce plus ancien et plus grand rucher collectif du monde, mais le bourdonnement des abeilles laisse place au silence. Et je suis allée sur place parce que ça m'a intriguée. Et c'est vrai qu'il y avait 80 familles là-bas, maintenant il n'y en a plus que 6-7. Et à cause de la sécheresse, du manque d'eau, il n'y a plus beaucoup d'abeilles. Mm-hmm. Et du coup, les familles sont obligées de partir. C'est une sorte d'exode rural forcé. Et je voulais parler de ça dans un roman pour montrer comment la sécheresse, les problématiques climatiques, vraiment, ont une conséquence sur l'intimité des vies humaines.
Alors, il y a une jeune mère de famille dans votre histoire qui, pour sauver son enfant malade, qui convulse, va au rucher, mais elle commet un sacrilège.
Exactement, c'est la première scène du roman.
Ouais, il y a une règle.
Il y a une règle, en fait, cette communauté, l'intrigue est complètement inventée dans ce roman, mais tout ce qui a trait aux légendes, aux règles, aux familles, aux traditions, est vrai. Parce que je suis allée sur place, je suis restée plusieurs jours, j'ai fait pas mal d'enquêtes, d'interviews. Et du coup, il y a des règles, c'est vraiment une communauté qui a un rapport à la nature d'équilibre. Et donc, il faut laisser 10% de ses récoltes aux habitants, il faut laisser du miel aux abeilles pendant l'hiver. Et cette femme commet un sacrilège pour les villageois de ce village.
Mmh. On peut le dire, non ?
On peut le
comme
dire,
vous voulez.
Parce que de toute façon,
j'y allais, mais sinon...
effectivement, l'intrigue n'est pas forcément basée là-dessus, parce qu'on veut comprendre ce qu'elle a. Et donc, les villageois pensent qu'elle a volé du miel, et on ne peut pas voler le miel du rucher du saint.
Tu ne dois jamais prendre le miel d'une ruche qui ne t'appartient pas. Ça commence par là, et effectivement, il y a des sanctuaires, des ruches qu'on ne touche pas. On pense que le miel a un pouvoir de guérison dans le village. C'est pour ça qu'elle va essayer de sauver son enfant. Quel pouvoir ?
Il y a une sorte de pouvoir de remède, comme dans beaucoup de traditions, on prête au miel des vertus. D'ailleurs, scientifiquement, certaines vertus sont prouvées. Et effectivement, en fait, le livre commence par une scène un peu tragique où il y a un bébé qui a des crises d'épilepsie ou en tout cas de spasme. Et sa mère, il n'y a pas de médecin, on est en pleine campagne, l'hôpital le plus proche est très loin, il n'y a pas de pharmacien. Et pour le sauver, se dit l'ultime remède, c'est d'aller prendre le miel des abeilles. Alors, est-ce que y a ce remède a fonctionné ou pas? Je vous laisse découvrir.
Non, on va pas tout raconter. Ouais, surtout qu'elle a volé le miel, donc on peut imaginer plein de choses. Bon, voilà. En tout cas, c'est vrai, Zineb Mekwar, que vous décrivez tout au long de ce livre un équilibre menacé. L'équilibre naturel, à savoir l'écosystème, et l'équilibre des hommes et des femmes partagés comme ça entre la campagne et la ville, entre les traditions et la modernité. Qu'est-ce qui se passe à Inzerki? On s'est enfermé dans les traditions ancestrales?
En fait, il y a à la fois les traditions ancestrales qui peuvent nous enfermer, et à la fois une modernité aveugle, avec cette sécheresse, avec cette nécessité obligée presque d'aller en ville pour se sauver financièrement, qui les prend en étau, ces villageois. Et donc on a Jeddi, qui est le grand-père, qui est un peu le représentant de cette tradition, presque parfois malgré lui. Mmh. Et on a le père du petit garçon Anir, qui est un peu le personnage principal, le père Omar, qui est obligé de partir, à la fois parce qu'il veut sauver sa femme, et à la fois parce qu'il n'y a plus de miel. Mmh. Et donc c'est vraiment comment la sécheresse et le dérèglement climatique obligent vraiment les villageois à faire des choix, mais qui ne sont pas vraiment des choix.
Transforme les vies, en fait.
Transforme les vies, exactement.
Les libraires, il y en a trois pour vous, Zineb Mekwar. Ne me regardez pas avec un air inquiet, tout va bien se passer. La Belgique, avec vous, Nathalie Clairin.
Oui, eh bien, très beau récit, Zineb Mekouar. Alors, le ton utilisé, un peu comme celui d'un conte, lui, il m'avait désarçonné dans les deux, trois premiers chapitres. Et puis, j'ai vu les éléments se dévoiler peu à peu, très subtilement, et j'ai saisi toute la beauté de l'histoire. C'est un livre très riche pour les thèmes d'une actualité si brûlante, et avant tout très touchant pour sa façon de montrer la puissance de l'amour maternel.
Voilà, la Suisse, Annick Vermeaux, êtes-vous d'accord ?
Oui, avec cette histoire à la fois sombre et lumineuse, je me suis envolée avec les abeilles sur cette terre sauvage et terrible d'Inzerki. Avec délicatesse infinie, vous comptez les difficultés de survie autant des humains que des insectes. Et surtout, je vous recommande, à vous Emmanuel, puis aux lecteurs, pour une immersion complète dans le récit, de grignoter un ou deux rayons de miel en lisant ce livre.
Oui, avec un pot de miel, c'est pas mal aussi. Il a 10 ans, le petit Anir, qui est dans votre roman. Il a un regard sur le monde très lucide malgré tout. Il est en quête d'amour et surtout, il a compris qu'il fallait respecter les abeilles. Je vais pas dire qui c'est Anir, parce que sinon on dévoile trop de choses. Mais cet enfant-là, il essaye de sauver sa maman. Il essaye aussi à un moment de sauver son grand-père. Il est d'une douceur incroyable. C'est très émouvant de lire son histoire.
Bah écoutez, merci beaucoup Emmanuel. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu un peu transmettre à travers ce personnage. Et l'un des thèmes autres que celui de la sécheresse, c'est l'amour maternel meurtri. Cette mère, il se passe une tragédie cette fameuse nuit. Et Anir, 10 ans plus tard, on le retrouve et il a cette impuissance quotidienne à sauver sa mère. Et une des questions qui traverse le livre, c'est comment l'enfance, quand la terre ne peut plus la nourrir, quand la mère ne peut plus la nourrir, comment l'enfance s'en sort avec cette volonté très naïve, très belle de vouloir sauver ses parents, mais est-ce qu'on le peut vraiment et est-ce qu'on ne devient pas adulte le jour où on se rend compte qu'on ne peut pas vraiment sauver sa mère ?
Au Canada, je sais que Josiane Etourneau, vous avez été très touchée par cette histoire autour de l'enfance, parce que c'est un livre aussi sur l'enfance sacrifiée parfois par les adultes qui sont en perdition.
Et aussi le fait de vous parler de Anir, d'une maturité complètement sidérante. Ben, je vais vous le dire, Zineb Mekouar, votre livre, pour moi, c'est l'un des plus beaux que j'ai eu la chance de lire depuis la rentrée automnale. C'est une splendeur,
ni plus ni moins.
C'est une splendeur. C'est le genre de livre dont on tarde le plus possible le moment où il faudra s'en séparer, parce qu'il parle de tout avec un tel amour, une telle lumière, une telle délicatesse. Rares sont les livres qui réussissent avec autant de grâce à nous parler des choses difficiles. Alors, je me souviendrai des abeilles et je me souviendrai longtemps de ce que ce roman a fait naître dans mon cœur pendant sa lecture.
Wow, merci beaucoup.
Voilà, vous êtes salué par les libraires, Zineb. On est très content pour vous. Vous pouvez nous décrire le rucher comme vous le faites dans le livre. En fait, imaginons qu'on ferme les yeux et qu'on est au Maroc avec vous.
Alors, voyageons ensemble dans le Haut Atlas. Une heure d'Agadir.
Philippe, fermez les yeux.
Entre Agadir et Marrakech, on arrive sur un sentier un peu escarpé et on a tout autour de nous une terre rouge et ocre et on sent la chaleur juste en regardant les couleurs. Moi, c'est ça qui m'a le plus frappé. On a des touffes de thym, des arbres, des arganiers, du bois et on arrive au fur et à mesure qu'on arrive sur ce sentier qui mène au rucher. Il y a ce rucher qui est presque un personnage mythologique à part entière qui apparaît devant nous. Il est fait de bois, de terre et les ruches sont circulaires, faites de roseaux tressés. C'est des ruches très particulières, très traditionnelles. On peut imaginer aussi le bourdonnement des abeilles et en fonction du temps de la journée, soit on est au crépuscule et là il y a le rose et l'ocre et le orange aussi du ciel qui se mélange au bleu, soit on est très tôt le matin et là il y a une blancheur effilée de la lumière. C'est très, très beau, je vous conseille d'aller voir cet endroit.
Le bourdonnement des abeilles avec deux types d'abeilles, les jaunes et les noires. Vous lirez dans ce livre que certaines sont plus agressives mais aussi plus prolifiques. Hein. Elles produisent plus de miel, elles sont plus résistantes surtout. Et il y a cette phrase, on va terminer avec ça Zineb, vous écrivez « Les abeilles ne sont pas un bien que l'on possède ».
Oui, exactement, parce que les villageois de cet endroit pensent que chaque ruche appartient à une lignée, à une famille. Et la mère, qui a cette liberté extraordinaire et qui finalement va être le bouc émissaire, parce qu'elle est tellement libre qu'elle fait peur. Et cette mère-là, elle dit à son mari à un moment... Mais non, ce que vous dites sur les abeilles, les ruches qui appartiennent, moi je pense au contraire qu'elles n'appartiennent à personne. Elles forment un tout, un équilibre, et elles n'appartiennent qu'à elles.
Et la raison d'être commence bien sûr par le respect de la nature, et sans doute le respect des abeilles. Protéger les enfants commence par le respect des abeilles dans votre livre.
Exactement.
Merci beaucoup Zineb Mekouar. Merci, félicitations pour ce roman cassé du Nos Libraires. Souviens-toi des abeilles, est paru chez Gallimard.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires, seconde partie, un coup de gueule en Suisse, Annick Vermeaux.
Et oui, Emmanuel, ce n'est pas une dent, mais un dentier complet que j'ai contre le financement de la création de la bande dessinée en Suisse. Premier problème. La majeure partie du...
Allez-y, vous vous faites rire toute seule aussi, ça va. Allez-y, sans votre dentier, essayez.
Alors, le premier problème est que la majeure partie du financement étatique et privé est prévue pour les arts vivants. Donc, il ne reste que des miettes pour la littérature et la bande dessinée. Deuxième problème, la bande dessinée est reliée à la littérature et ce n'est pas du tout les mêmes critères. Mmh. Et en plus, il y a un parti pris pour un type de bande dessinée qui ne représente en rien du tout la diversité de la création des auteurs suisses. Quant aux maisons d'édition, il y a tant à dire que je vous les réserve pour un autre coup de gueule.
D'accord, très bien, si on a le temps. Merci, merci Annick. En tout cas, c'est la pagaille du côté du monde de la BD. Un coup de cœur en France, très vite, Thomas Serre.
Oui, un très gros coup de cœur pour un album jeunesse qui s'appelle Nos Maisons, d'Élise Perrache aux éditions Saltabank. Ça raconte, Emmanuel, l'histoire d'un enfant qui chaque année attend l'été pour rejoindre sa maison de vacances, retrouver ses cousins et surtout construire ses propres cabanes, selon ses envies, celles pour se reposer, pour pique-niquer, pour se planquer, pour rêver, bref. Les illustrations sont magnifiques, elles sont accompagnées par de très chouettes découpages. Oui. C'est beau, original et poétique, ça vient de sortir, précipitez-vous.
Je confirme, Nos Maisons chez Saltimbanque. Merci Thomas. Pour conclure, le son de l'outre-mer avec les frères Timal, originaires de la Guadeloupe. De la Guadeloupe avec un extrait de Voyez la voix interprété par les frères Timal. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Instagram et X pour communiquer avec vous à la réalisation Stéphane Combe avec Laurent Baudouin, Thierry Dupin à la prog musicale, à la rédaction Jean-Philippe Verret et Christophe Magère avec Constance Gonin et les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. Un grand merci pour votre fidélité indéfectible. Nous pensons fort à vous. À très vite, merci. Et n'oubliez pas la rediffusion de la librairie francophone à 1h du matin avec le bonus créole de Philippe Torreton. À suivre, Affaires sensibles autour du film de Prévert, L'île aux enfants perdus.
Franck Tillier, l'auteur de thrillers préférés des Français, est de retour en librairie. Par moins 40 degrés, plongé dans une enquête glaciale, Franck Tillier vous emmène à Norferville, au cœur du Grand Nord canadien. Dans l'univers hostile de cette ville minière, personne ne vous entendra crier. Norferville, le nouveau roman de Franck Tillier, chez Fleuve Édition.
Chaque année, je demande des comptes à mon argent, ce qu'il a fait pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est pour ça que je suis au Crédit Coopératif, parce que tous les financements pour l'énergie vont aux énergies renouvelables et pas aux énergies fossiles. Et oui, mes idées et mon argent mènent le même combat. Et vous ?
Crédit Coopératif, une autre banque est possible.
Plus d'informations sur www.crédit-coopératif.coop, page RSE.
Mathieu et toute sa bande, c'est pour la vie. En tout cas, ça fait un beau temps qu'il se le dit. Longtemps qu'il peut compter sur eux et pas mal de temps qu'il partage le même amour des choses bien faites. Et depuis tout ce temps, il se trouve si bien loti avec tous ses appareils électroménagers chéris. Cette belle histoire pourrait bientôt être la vôtre. Découvrez la sélection choix durable d'Arty. Des produits plus fiables, plus réparables et moins énergivores. Alors, on en reparle dans, disons...